Vous écoutez Accent 4. Il est 8h.
Bienvenue dans Tempo Matin. En ce mardi matin, j'accueille avec plaisir Catherine Bolsinger. Bonjour Catherine.
Bonjour Laurent.
Merci d'être venue à notre rencontre dans Tempo Matin. Vous êtes directrice artistique et musicale du Chœur Philharmonique de Strasbourg depuis sa création en 2003. Vous êtes chef du Chœur de Haute-Alsace également, Orchestre Symphonique de Mulhouse, et créatrice du Quintet professionnel Voix de Strasse. Ça fait beaucoup pour une même personne.
Quand on est musicien, il n'y a pas de frontières. Hein.
Alors, je dis, à dessein, je dis ça fait beaucoup pour une même personne, parce que quand tout s'arrête subitement, ça fait un énorme choc, et c'est l'objet de l'ouvrage que vous êtes venu présenter au micro de Tempo Matin. Un chœur à l'ouvrage, l'aventure humaine du Chœur Philharmonique de Strasbourg, que l'on va évidemment évoquer ensemble, avec, et je tiens à le préciser tout de suite, une séance de dédicace qui est prévu demain chez Arpège, demain à 18h. C'est l'occasion de se procurer cet ouvrage qui est passionnant et de vous rencontrer pour en parler. Nous sommes, et c'est comme ça que démarre votre ouvrage, le 12 mars 2020. Les mesures renforcées dans le Bas-Rhin viennent d'être prises.
Samedi soir, les restaurants, les bars, tous les commerces non essentiels à la vie de la nation ont également clos leurs portes. Les rassemblements de plus de 100 personnes ont été interdits.
C'est le début, j'espère que je ne dis pas de bêtises, de la colère et de la résignation pour vous ?
Oui, de la résignation, c'est pas trop mon style, hein. Mais en tout cas du questionnement. Et même pour le chœur en général, ce qui est paradoxal, c'est que dans cette période où on a été privé de ce qui nous rassemblait, on s'est construit comme collectif. Et c'est cette histoire en fait que j'avais aussi envie de raconter, au-delà des péripéties de la Covid qui nous a évidemment mobilisés comme tout le monde.
Une certaine crainte tout de même, parce que si je me réfère à votre ouvrage, et notamment à la page 13, où vous évoquez en quelques lignes un moment très intime et très personnel de votre existence, lié à votre grossesse et à la fin de votre grossesse, où vous aviez cette crainte d'être écarté du lien social. C'est ça qui a provoqué l'envie de remuer ciel et terre pour garder le contact.
C'est ça. Disons que cette période où on s'est retrouvé isolé m'a ramené à effectivement la fin de ma grossesse, les trois derniers mois où j'étais sur un lit d'hôpital sans avoir le droit de me lever. Donc c'était vraiment un isolement total. Et je me suis souvenue qu'en sortant de l'hôpital, j'avais du mal même à croiser les gens dans la rue. J'étais méfiante, j'avais perdu ma capacité à être avec les autres et donc j'aurais été totalement incapable de chanter dans un chœur. Et je me suis dit, mais si mes choristes sont dans cet isolement de la société comme ça pendant longtemps, ça va détruire ce qui construit le chœur, c'est-à-dire le lien entre les gens et la capacité à chanter alors qu'on est tout à côté de quelqu'un d'autre.
C'est ça, cet ouvrage, en fait, c'est la farouche volonté de garder le contact. Votre livre est une, je sais pas si c'est une synthèse ou si vous y avez mis tous les échanges mails que vous avez eus dès le début de l'isolement, mais vous avez beaucoup communiqué par voie électronique avec les choristes. Hein. C'est ça la construction du livre, hein. C'est tous ces messages, tous ces échanges qui sont pour certains bouleversants de sincérité, d'amour, et pour d'autres de colère et de tristesse. À quel moment vous décidez de lancer cette opération commando par mail pour garder le contact ?
Oh ben c'est rapide, hein. Parce que je suis pas du genre à m'asseoir et à me lamenter sur ce qui se passe. J'essaye plutôt de... Enfin, dès que j'ai pris conscience qu'il fallait que je fasse quelque chose, je pense que les premiers messages... Notamment, j'ai lancé cette chaîne de chansons. Je me suis rappelé quand on était petit, on faisait des... Comme dans l'adolescence, là, des chaînes, des lettres.
Oui, j'allais y venir. C'est le début de l'ouvrage. Vous demandez à chacun de vous répondre en précisant quelle était cette chanson à laquelle on se raccrochait quand tout allait pas trop bien dans la vie. Alors, c'est pas forcément que des chansons de l'univers classique. Hein. Je vois Good Vibration des Beach Boys, la chanson de Queen, Don't Stop Me Now, C'est beau la vie, Jean Ferrat, bien sûr, mais j'en ai repéré d'autres que j'ai beaucoup aimé aussi. Il y a du Michel Fugain, il y a la chanson de George Michael, Freedom, et puis il y a la chanson de la colère, Black or White, de Michael Jackson. C'est une belle idée, ça, de faire vivre cette communauté à travers les chansons fétiches des uns et des autres.
Parfois, quand on fait parler les gens de leurs chansons, des chansons qu'ils écoutent, finalement, ils parlent de quelque chose de très intime, de leur vie, de comment ils se sentent. C'est d'ailleurs, vous savez d'où ça vient ? Ça me vient cette idée des chansons, des émissions que j'avais fait pour Accent 4 sur la voix et sur le vocalédoscope. Et ma dernière question que je posais aux invités, c'était quelle est votre chanson ? Et à chaque fois, ça générait des confidences très personnelles. Et ce qui est intéressant, au-delà des chansons qui sont effectivement, qui sortent largement du contexte classique, c'est ce que chacun raconte entre celui qui travaille dans un EHPAD et qui est confronté à la mort au quotidien, celle qui a ses enfants à la maison et qui doit faire la classe et en même temps continuer de travailler. Enfin, c'est une image de cette période, c'est tout début du confinement, parce qu'en fait, ça, c'est début avril. Hein, donc, ça m'a donné aussi, je crois que ça a fait du bien à tout le monde de raconter un petit peu la situation dans lesquelles il était.
Vous avez eu la gentillesse de venir prendre le café dans Tempo Matin sur Accent 4. Alors, vous avez le droit de choisir une chanson qu'on va écouter tout de suite et puis on se reparle juste après. C'est quoi votre chanson fétiche à vous, alors ?
Alors, moi, la chanson, d'ailleurs, c'est celle avec laquelle j'ai lancé l'idée pour mes choristes, c'est Gracias a la vida de Mercedes Sosa. Parce que, bon, c'est une chanson qui est revenue dans différents épisodes de ma vie personnelle, mais je trouve que c'est une chanson, justement, qui a une grande force, qui dit merci à la vie. Et c'est, personnellement, c'est ça que j'avais envie de retrouver, c'était les raisons de dire merci à la vie.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco. Y en el alto cielo su fondo estrellado, en las multitudes del hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído en todo su ancho, graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, padre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados. Con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco. Cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el vuelo ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, lo material que forman mi canto y el canto de ustedes que es el mismo canto y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida que me ha dado tanto.
Merci à la vie, Gracia à la vida, une chanson de Violeta Parra, chanteuse chilienne, choisie par notre invitée spéciale dans Tempo Matin. En ce mardi matin, c'est Catherine Bolsinger qui est avec nous. Merci Catherine d'être là.
Merci à vous.
Demain, on pourra vous rencontrer et surtout acheter votre livre, parce que c'est un livre passionnant sur une aventure humaine incroyable, chez Arpège, demain 27 novembre à 18h. L'ouvrage s'appelle Un cœur à l'ouvrage, c'est l'aventure humaine du chœur philharmonique de Strasbourg pendant une période où tout s'est arrêté, sauf vous. Vous avez continué à remuer ciel et terre pour garder le contact. Et je dis ciel et terre parce que les différents messages, mails que l'on retrouve dans cet ouvrage ne concernent pas seulement votre entourage proche, les choristes. J'allais dire la terre entière vous a écrit.
Ça, c'est le deuxième épisode. Un jour, je me suis dit, mais bon sang, le virus, il est international, le chant choral aussi. Alors, qu'est-ce qu'ils font les autres chefs? Parfois, d'écouter les autres, ça nous aide à comprendre notre situation. Donc, j'ai lancé avec les choristes. En plus, dans le chœur, on a 17 nationalités, donc on avait un réseau international et on avait du temps pour le faire. Donc, on a lancé une enquête auprès des chœurs du monde entier en leur disant, qu'est-ce que vous faites? Il y a 60 chœurs qui nous ont répondu, des 4 continents. Et ce qui était vraiment... Et ça m'a aidé à faire le pas de côté qui m'a emmené plus loin ensuite. Parce que les réponses de chacun étaient, autant que le chant choral, des expressions culturelles. La façon de réagir. Par exemple, les Japonais, les chœurs qui m'ont répondu du Japon, avaient s'accroché à la technologie. Ils faisaient des répétitions connectées, des concerts connectés, des concours de chœurs connectés. Les Allemands, ils ont fait de tout scientifique. Ils ont mis ensemble ceux de Bamberg, ils ont mis ensemble l'hôpital, l'université et l'orchestre pour savoir comment se diffuse, étudier comment se diffusent les aérosols et comprendre ce qui se passait. Les Britanniques, ils ont créé un cercle des chefs de chœur britanniques. Alors j'aurais dit, ça c'est génial, est-ce que je peux venir avec vous? Ah non, c'est que pour les Britanniques. Attends, ça c'est marrant. Et puis les Américains, principale question, c'était en cas de procès, qui est responsable? Et je me suis dit, mais nous les Français, c'est quoi notre pli? C'est quoi, quelle est notre façon de réagir? C'est pas facile de s'observer soi-même. Alors j'ai regardé un petit peu avec cette idée-là, les réactions de mes collègues sur les réseaux. Il y avait quelque chose qui revenait souvent, c'était « on attend qu'on nous dise ce qu'il faut faire ». Alors là, je me suis dit, faut pas attendre. Et c'est là que j'ai commencé à chercher comment nous, on allait pouvoir répéter. Et on a été de fait le premier chœur de France, le premier chœur amateur à répéter à la mi-juin dans la salle du conseil municipal de Strasbourg qui n'était pas occupée à cette époque.
Et c'est grâce à votre énergie, à votre envie de garder le contact et de mettre la musique au cœur de l'espoir. Vous dites notamment, à un moment donné, une pandémie qui n'en finit pas de s'arrêter. Et aujourd'hui, que reste-t-il de cette aventure? Est-ce qu'il y a, selon vous, eu un changement profond dans la relation que vous entretenez avec vos choristes?
Ah ben pas que là, bien sûr, ça a transformé, c'est il y a avant et après. D'ailleurs, souvent dans notre conversation avec les choristes, on dit oui, avant et après. D'abord, il y a eu un renouvellement assez conséquent de l'effectif, parce que donc, tout le monde s'est arrêté, tout le monde n'est pas revenu. Il y a des choristes qui ensuite ont changé de pratique ou de changer de cœur. Heureusement, les trois quarts sont revenus, mais surtout aussi après, il y a énormément de jeunes qui sont arrivés, qui ont voulu à tout prix avoir cette pratique avec les autres. Et puis l'autre changement que je constate aussi beaucoup, c'est le type de la relation au public, comment le public vient en concert. Autant avant, on prenait ses abonnements en début d'année, voilà, et ça c'est j'ai l'impression terminé. Je vois que quand on fait des concerts, on ne sait pas tellement comment il y aura la fréquentation. Et des fois, c'est des déferlantes. Il y a samedi soir, on a fait un concert à la cathédrale qui accueille quand même 1000 personnes. Il y a, je crois qu'il y en a 300 qui sont restés dehors. Donc le rapport au collectif, je pense, a profondément changé. C'est compliqué de l'analyser. Comment, qu'est-ce qui a exactement été transformé? Et je pense que personnellement aussi, ça m'a changé dans ma façon de faire avec le cœur et dans la relation que j'ai établie avec les choristes, profondément, bien sûr.
Il y a aussi dans ce livre des photos, moi, j'ai été touché par la sélection de photos que vous avez eu la gentillesse de partager avec nous dans cet ouvrage, que vous pouvez découvrir, je vous le rappelle, chez Arpège demain après-midi à 18h. Ce sont des photos qui sont là aussi très parlante, parce que vous avez souhaité mettre en avant les gestes que vous avez lors des répétitions et lors des différentes représentations. Pour vous, c'est important de partager ces moments, parce que les gestes, finalement, c'est une partie de votre intimité.
C'est ça, mais surtout, je crois que c'est ce qui se raconte aussi dans le livre, c'est que la musique et le chœur, le fait de partager, de chanter dans un chœur, c'est parler des archétypes humains. Et que, en fait, même quand je dirige avec mes mains ou avec mon visage ou avec mon corps, je montre ces archétypes d'émotions.
Et ces émotions, on les voit notamment grâce au cliché de Grégory Massa de l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg, qui a fait des magnifiques photos. Rencontrer Catherine, c'est une belle occasion de partager avec elle ce moment incroyable qu'elle a pu, et ce lien incroyable qu'elle a pu créer au cœur du Covid. Ce sera demain à 18h chez Arpège, vous y serez.
Bien sûr.
Évidemment. Et puis en deux mots, l'actualité prochaine du chœur.
C'est notre concert de Noël à Saint-Thomas le 6 décembre.
Merci beaucoup. Un concert évidemment soutenu par Accent 4. À demain 18h, Catherine, alors.
Tout à fait. À demain.
Avec plaisir. Et évidemment. Et puis alors, tiens, Catherine, ça va vous faire plaisir. Voici un extrait avec le chœur philharmonique de Strasbourg, bien sûr, capté à l'occasion du festival de Pâques. C'était le 27 mars 2024 par les Oreilles d'Or d'Accent 4, Denis Fellinger et François Govenet. Nous étions, chère Catherine, vous en souvenez, à Saint-Mathieu, le Requiem de Forêt. Voici la toute dernière des sept pièces que vous interprétez avec le chœur, In Paradisum.
Thank you.
pièce de toute beauté, In Paradisum, extrait du Requiem de Gabriel Fauré, la septième et dernière pièce du Requiem, enregistrée à Saint-Mathieu. C'était au Festival de Pâques cette année, le 27 mars 2024, par les Oreilles d'Or d'Accent 4, que je salue, Denis Féninger et François Govenet, pour cette toute dernière pièce, la septième pièce intitulée In Paradisum.
Accent 4,
l'instant classique.
Restez avec nous dans un instant. L'histoire incroyable de Montserrat Caballé racontée dans cette saga par Bernard Cribier.